RCF. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, je vous entretenais au sujet de la place du télétravail en France avec des chiffres mettant en perspective que celui-ci était plutôt bien accepté par les salariés de plus de 35 ans, un peu moins du côté des jeunes et encore moins du côté des patrons qui, eux, sont plutôt à se dire que ce serait bien que tout le monde rentre au bercail. Et comme cette semaine, on va parler de travail, de management, je ne peux m'empêcher de vous livrer quelques éléments d'une étude toute récente puisqu'elle a été publiée ce jeudi sur la place du travail et des jeunes. Les jeunes, menés par la PEC et Terra Nova et qui révèlent des conclusions surprenantes et nuancées. Selon des stéréotypes, bien évidemment, quand on parle des jeunes, on les décrit souvent comme paresseux, individualistes et en quête de sens. Une jeune génération active, souvent mal comprise, car loin de l'image d'indifférence ou de désengagement, ces jeunes professionnels montrent un attachement profond au travail, similaire à celui de leurs aînés. Ils expriment une satisfaction notable envers leur situation professionnelle et un désir encore plus prononcé de formation, de progression et d'apprentissage au sein de leur collectif de travail. Étonnant, non, comme dirait le docteur Cyclopède. Cependant, cette même étude précise que cette génération n'est pas un bloc monolithique. L'étude identifie d'ailleurs 6 sociotypes parmi ces jeunes, chacun avec son propre rapport au travail, ses aspirations et son contexte socio-économique. On trouve les ambitieux qui vivent leur travail comme une passion, les satisfaits qui entretiennent également un repart positif au travail mais se sentent à leur place et expriment peu de désir de mobilité, les attentistes, ceux qui sont dans une routine dont ils aimeraient sortir, les distanciés qui trouvent ça confortable et ne souhaitent pas gagner en responsabilité, puis les combatifs. Bref, une donnée frappante de cette étude, c'est surtout le désir des jeunes actifs de progresser rapidement dans leur carrière, souvent prêts à sacrifier du temps libre pour une meilleure rémunération, surtout dans le contexte inflationniste actuel. Et c'est peut-être ce point qui les distingue des générations précédentes. Ils aspirent à plus de sécurité financière, à l'autonomie au travail, à un grand souhait d'endosser rapidement des responsabilités, y compris des rôles de management. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disait l'ami Corneille dans le CID. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions. Cette semaine, vous l'avez compris, on va parler de travail, de management, de communication, de télétravail. On évoquera peut-être aussi la place des jeunes au travail, même si je vous garde cela pour une émission du mois de mars prochain. Pour nous accompagner dans cette émission, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir d'abord deux auteurs. Sacha Lopez, auteur du livre chez Erol, guide de survie à destination des managers en situation hybride. Il est avec nous depuis RCF Anjou. Bonjour Sacha Lopez.
Bonjour à tous.
Et à côté de vous, toujours à RCF Anjou, François-Joseph Vella, qui lui vient de sortir un autre ouvrage qui sont les 5 règles vitales de management en coédition, en co-écriture avec Frédéric de Butler aux éditions du Bien Commun. Bonjour François-Joseph.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux auteurs de deux livres complètement différents, peut-être complémentaires, c'est ce qu'on verra avec vous dans le dossier de l'écho des solutions. À la fin de cette émission, dans les 7 minutes pour changer le monde, on retrouvera Vincent Lemaire qui joue actuellement sur toutes les scènes de France un spectacle qui s'appelle Comme en couleur. Après l'avoir longtemps tourné dans le monde de l'entreprise, il le sort auprès du grand public. En gros, c'est comment communiquer quand on fonctionne pas pareil. On en parlera dans les 7 minutes pour changer le monde. Pierre Collignon, pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, sera avec nous tout de suite après notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Laure Coussira-Cousteret. Elle est directrice générale adjointe de l'ADI. Et avec vous, Laure, qui êtes en studio avec nous, on va évoquer pourquoi et comment il y a toujours des gens qui travaillent au noir.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour Laure, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes donc directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI, en quelques mots, c'est l'Association pour le droit et à l'initiative économique. C'est du microcrédit pour relancer des personnes dans le travail alors qu'ils en avaient été très éloignés. C'est ça l'ADI en quelques mots très rapide avant d'évoquer votre étude.
Et oui, l'ADI depuis 25 ans, elle agit concrètement pour faire en sorte que tous ceux qui le souhaitent puissent créer leur entreprise. et ils en sont empêchés. On constate que des milliers de personnes chaque année ne passent pas à l'acte parce que, d'une part, ils manquent d'argent, ils n'en ont pas et ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Et d'autre part, ils s'imaginent que la création d'entreprise, ça n'est pas pour eux, c'est trop compliqué, ils n'auraient pas les bons parcours professionnels ou les bons diplômes. Et donc nous, concrètement, on les aide parce qu'on refuse le gâchis de leur talent et on leur apporte des solutions financières avec un outil très précis, vous l'avez cité, le microcrédit, un petit prêt, et un accompagnement tout au long de leur parcours pour les aider à lancer et sécuriser leur entreprise.
Alors, travail au noir, travail dissimulé, travail au black, travail non déclaré, travail informel, il existe un entrepreneuriat invisible. Vous en avez fait une étude à quelques jours de l'ouverture de la semaine nationale pour créer sa boîte en 2024. Pourquoi cette étude? Qu'est-ce qui a été le déclic de travailler cette question des informels dans le monde économique aujourd'hui, Laure?
Eh bien, parce que nous, à l'ADI, au quotidien, on les côtoie et on a souhaité, d'une part, déstigmatiser leur parcours, aller à leur devant et mieux connaître leur trajectoire professionnelle, puisque là aussi, on se trouve face à des personnes qui sont empêchées de franchir le pas de la création, de la déclaration officielle de leur entreprise. Et donc, nous, on souhaite pouvoir leur permettre de franchir ce pas. Et pour ça, il fallait qu'on aille à leur devant et qu'on les interroge et qu'on connaisse les ressorts.
Des raisons pour lesquelles, justement, elles sont toujours...
Elles restent effectivement non déclarées.
Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'elles restent non déclarées, Laure ?
Alors ce qu'on arrive à étudier, c'est qu'il y a trois facteurs qui jouent. Le premier facteur, c'est un facteur de peur. La création d'entreprise, ça fait peur, d'autant qu'on est face à des gens qui, en proportion importante, quasiment 35%, n'ont aucun diplôme dans leur parcours. Et donc la création d'entreprise, c'est une sorte d'Himalaya et ils s'imaginent que ça va être très complexe. Ils ont peur aussi de ce qui va leur tomber dessus. Ils méconnaissent le système des cotisations sociales. Ils peuvent avoir peur de perdre des aides dont ils bénéficient. Ensuite, ils ont un autre mécanisme qui est celui de la prudence. Ils ont développé une petite activité, pas à pas. C'est quelque chose qui est important pour eux, qui leur apporte un complément de revenus à eux qui sont le plus souvent en situation de précarité. Et donc, ce phénomène de prudence fait qu'ils vont peut risquer le fait de mettre mal ce qu'ils ont déjà acquis.
Et il y a un profil type de ces informels? Ce sont plus des hommes, ce sont plus des femmes, ce sont plus des étrangers, ce sont plus des jeunes. C'est quoi le profil de ces informels?
Alors on en trouve avec tous ces profils que vous venez de dénoncer. Le phénomène le plus marquant, celui qu'on mesure, c'est que c'est un phénomène plus féminin. Voilà. Sinon,
pourquoi
les âges, toutes les origines.
Est-ce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, peut-être parce que elles sont, si elles sont pas salariées d'un entrepreneur qui est leur mari, est-ce que c'est lié
Non, c'est lié souvent en fait de cumuler plusieurs choses, dont le soin de la famille et le fait d'avoir du coup devant elles peu de temps et peu de ressources pour développer une petite activité, à tel point qu'elles deviennent à ce point développées que ça leur permette d'envisager de se déclarer.
Alors quand on parle des informels, on parle aussi de secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité sont touchés par ce travail informel?
Tous les secteurs d'activité sont touchés par le travail informel. On peut avoir des gens, par exemple, qui vont commencer des travaux dans l'informel, par exemple sur de l'entretien de jardin, à petite échelle. Et ce qui se passe, c'est que concrètement, en restant dans l'informel, très souvent, on peut juste avoir affaire à ses voisins ou à quelques personnes autour de soi. On est dans l'incapacité de faire connaître son activité, de la développer, d'avoir des moyens financiers qui permettraient aussi de la développer.
Et puis, ne serait-ce que commencer par l'échec CESU, qui permettent une déclaration et d'être protégé. Alors ça, c'est les secteurs qui sont touchés. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs qui utilisent on a parfois le sentiment aussi qu'il y a des secteurs d'activité qu'il faudrait un petit peu aller bousculer du point de vue légal, qui utilisent aussi ce réseau des informels pour travailler?
Alors il y a peut-être aussi un mélange avec l'emploi salarié informel. Il faut savoir qu'en France, donc l'informalité, l'emploi informel, ça concerne 10% de l'emploi. Mais effectivement, dans ce mix, mix, il y a l'emploi salarié non déclaré et l'emploi indépendant qui ne s'est pas immatriculé. Et cet emploi indépendant, il représente qu'un tiers, en fait. Hein.
Un tiers du travail. Alors, comment on les accompagne? Comment l'ADI intervient déjà pour les faire basculer d'une prise de conscience? Parce que je crois que la première chose, c'est que des fois, on s'aperçoit peut-être même pas qu'on a monté sa boîte. Donc déjà, une prise de conscience qu'on a monté une entreprise à soi pour les faire passer. Comment l'ADI œuvre au quotidien pour aller chercher ces informels?
Eh ben, on va à leur devant. Première chose, on va sur le terrain concrètement les rencontrer. Récemment, une de mes collègues à Dreux, par exemple, a rencontré Maïmouna sur un marché. Et puis, en engageant la conversation avec elle, Maïmouna, elle avait un petit stand pour vendre des produits issus du karité, des produits cosmétiques pour la peau, pour les cheveux. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, Maïmouna, elle n'était pas déclarée. Et le premier sujet qu'on aborde, auquel cas, c'est pas frontalement la question de l'immatriculation, mais plutôt d'arriver à projeter l'entrepreneur sur le développement de son entreprise. Et puis, on lui montre que pour se développer, il va avoir besoin de s'immatriculer parce que ça lui donne accès à une nouvelle clientèle. Ça lui donne aussi accès à des réseaux d'approvisionnement qu'il ne peut pas avoir s'il reste dans l'informel. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi lui présenter comment est-ce qu'on peut l'accompagner et démystifier toutes les démarches administratives et les faire avec elle pas à pas. Et c'est ce qu'a fait Maïmouna.
Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'ADI comme étant un guichet pour venir frapper à la porte pour créer sa boîte. On pense peut-être à d'autres structures. Aujourd'hui, on a eu il y a quelques temps Thibaut Guilluy, le nouveau directeur de France Travail, qui souhaite mettre tout le monde dans un même fichier parce qu'il dit il faut pas laisser des gens sur le bord du trottoir. S'ils ont envie de travailler, il faut pas qu'on les oublie. En fait, c'est surtout ça sa motivation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'ADI, vous allez intensifier, co-construire des outils avec France Travail?
Alors, on collabore avec France Travail et on a beaucoup de pain sur la planche. Je vous disais, l'année dernière, on a accompagné 25 000 entrepreneurs. Donc, c'est 25 000 talents qui ont pu se révéler, mais il y a beaucoup plus à faire. Et donc, je ne sais pas s'il faut parler de guichet, mais en tout cas, nous, on a des bureaux et nos bureaux, ils sont grands ouverts. Mais on sait aussi que ce n'est pas suffisant et que pour aller au-devant des entrepreneurs, il faut aussi sortir du bureau et aller vers eux.
Alors, ça veut dire quoi? 25 000 accompagnés, on est quand même sur des toutes petites entreprises et des embryons d'entreprises. Est-ce qu'il y a aussi des grands succès, des succès qui ont commencé à l'ADI, qu'aujourd'hui sont des entreprises installées avec plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de collaborateurs? Il y a des gros succès à l'ADI?
Il y a des gros succès, ça peut arriver, mais j'ai pas tellement envie mettre cela en avant, parce que en fait, derrière un gros succès, il peut y avoir des dizaines de milliers de tout petits. Hein. Nous, on s'est spécialisé sur les tout petits. C'est votre plombier qui vient vous réparer votre fuite chez vous. C'est votre vendeur d'olives et fruits secs sur les marchés. C'est votre coiffeuse. Voilà, c'est tous ces gens qui se lancent, qui cherchent avant tout à retrouver un emploi pour eux. Alors bien sûr, un certain nombre d'entre eux vont connaître des belles réussites, mais en tout cas, chacun à son niveau franchit déjà une très belle réussite, justement, en déclarant son activité et en révélant son talent dans son activité.
Alors, première semaine consacrée à la création de sa boîte, elle a dit, parlez-nous un petit peu, c'est présent sur toute la France, comment est-ce qu'on peut y participer? On est auditeur, on a envie de dire à quelqu'un, tiens, il y a peut-être quelque chose pour toi, comment on fait si j'habite Grenoble, Lyon, Bordeaux, Nantes, Angers?
Semaine pour créer sa boîte du 5 au 9 février, donc dans tous les bureaux de l'ADI, plus de 400 événements qui sont organisés dans nos agences pour faire connaître la création de son entreprise, pour faire témoigner aussi justement les entrepreneurs financés et accompagnés par l'ADI, parce que c'est important de donner des exemples et que chacun repère que le créateur d'entreprise, ça leur ressemble.
C'est ça. Il faut donner des exemples et des exemples qui nous ressemblent. Merci beaucoup, Laure, d'avoir été avec nous. On retrouve tout sur le site de l'ADI, bien évidemment.
www.adie.org, la liste de nos 400 événements pendant la semaine pour créer sa boîte.
Et nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup, Laure. À très bientôt. Au revoir.
Merci.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors, heureux de vous retrouver en ce début du mois de février pour une nouvelle chronique. Cette semaine, vous souhaitez revenir sur le discours de politique générale du nouveau Premier ministre et sur ses formules choc.
Oui, parce que nous avons assisté lors de ce discours mardi dernier à une véritable litanie de formules choc qui fleurbon la communication, dont on dit que notre jeune et très sympathique Premier ministre est un adepte. déverrouiller le travail, désmicardiser la France, laisser vivre et respirer les Français, débureaucratiser, faire rimer croissance et climat, ou bien encore créer avec le compte épargne temps universel, vous savez, le fameux CETU, un vrai sac à dos social. Bref, toutes ces formules sonnent bien, espérons qu'elles ne restent pas que des formules.
Je vous sens bien méfiant. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser un peu de temps pour faire ce qu'il a annoncé quand même ?
Oui, bien sûr, vous avez raison, car on ne peut que se réjouir de certains de ses propos. Le Premier ministre, par exemple, a souhaité mettre en avant la valeur travail en insistant sur le fait que celui-ci, je le cite, « doit mieux payer que l'inactivité ». Et il s'est dit en plus résolu à répondre au défi des emplois non pourvus en allant plus loin dans la réforme de l'assurance chômage pour inciter à la reprise d'emploi. C'est un point très important, mais qui ne peut pas nous faire oublier le coût du travail en France.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça coûte cher le travail ?
Ben oui, qu'on ne peut pas oublier que la différence forte entre le salaire brut et le salaire net cache des prélèvements toujours plus importants de l'État. C'est d'ailleurs étonnant de voir que la question des déficits publics semble avoir disparu des radars, alors même que notre souveraineté, pourtant évoquée plusieurs fois par le Premier ministre, en dépend. Alors certes, il faut se convaincre que la croissance et le travail contribueront à résorber la dette, mais avec nos 3 000 milliards de dettes, je répète, nos 3 000 milliards, ce ne serait pas suffisant et on ne pourra pas indéfiniment mettre sous le tapis l'indispensable réforme de la fonction publique. Sur ce point, l'expérimentation généralisée de la semaine de 4 jours dans les administrations augure mal d'une véritable volonté d'agir dans ce domaine.
Alors quel bilan tirez-vous de ce discours, Pierre ?
On ne peut que souligner l'audace de la jeunesse et même un certain courage pour parler de sujets dont on sait combien ils peuvent être tabous en France. Mais la crédibilité de notre Premier ministre va maintenant se jouer dans sa capacité à concrétiser certaines de ses priorités, car les attentes sont nombreuses. Alors voilà, il nous reste à espérer que les paroles se transforment en actes sans nous affranchir, bien sûr, en tant que dirigeants, de nos propres responsabilités. Alors, wait and see, comme disent nos amis britanniques.
Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour ce retour sur le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Nous, on fait une pause musicale et on continue à parler de travail avec nos deux invités, qu'ils soient hybrides ou qu'ils soient en situation de management concrète. Nos deux invités nous attendent. On en parle d'ici quelques instants dans le dossier de l'écho des solutions. Merci, Pierre. À très bientôt. Au revoir.
Down, only ways up right now. I can see a new dawning. Oh, so far from home. Oh, been running so long, but tonight. I don't need to sleep to dream, no.
right now. I can see a new dawning.
C'était John Legend, Don't Need to Sleep sur RCF. Je ne sais pas si on a besoin de dormir ou pas quand on est en télétravail ou quand on est en situation de management. Mais en tout cas, c'est la thématique du dossier de l'écho des solutions de cette semaine.
L'écho des solutions, RCF.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine, un dossier qui est consacré à la question du management. On sait bien que manager des équipes n'est pas donné à tout le monde. Et pour cela, pour nous guider, pour guider les collaborateurs en situation de management, eh bien, il existe des méthodologies, il existe des possibilité d'être accompagné. Et pour cela, eh bien, j'ai deux auteurs avec moi. Le premier est François-Joseph Vella. Bonjour François-Joseph.
Bonjour.
Vous êtes consultant et vous venez de sortir avec Frédéric de Butler un ouvrage qui s'appelle « Les cinq règles vitales du management aux éditions du bien commun ». Ce qui me permet d'ailleurs peut-être de parodier un petit peu Simone de Beauvoir en posant la question « Naît-on manager ou est-ce qu'on le devient ?» On répondra peut-être à la question tout à l'heure. Et puis à côté de vous, chez nos confrères et amis d'RCF Anjou, Sacha Lopez, vous êtes cofondateur du Work Lab, vous êtes auteur du livre « Guide de survie pour un manager en situation hybride ». Bonjour Sacha.
Bonjour.
Avec vous, on essaiera de découvrir comment aujourd'hui le travail a peut-être transformé la manière de manager. Est-ce qu'elle l'a transformé en profondeur? Est-ce que c'est d'autres techniques de management? Est-ce que le fond reste permanent mais les techniques sont différentes? Et tout cela a été publié aux éditions Erol. On va peut-être commencer, si vous le voulez bien, par réfléchir ensemble sur la question de ce qu'est le travail aujourd'hui. Est-ce que pour vous deux, et répond qui veut pour commencer, est-ce que le travail pour vous a profondément changé et de manière profonde la manière de manager?
Vous avez deux heures pour un quart de feuille.
Alors, qui commence?
Voilà, c'est oui, comme dit mon voisin, effectivement, on se croirait au bac philo avec quatre heures devant nous.
Est-ce que le travail a profondément changé la manière de manager? Est-ce que le travail a profondément changé? C'est à la fois deux questions, mais deux questions en une, en fait.
Alors, moi, je parle en tant qu'effectivement consultant en management. Je fais ce métier depuis une douzaine d'années. Donc voilà, bien évidemment, je n'ai pas la prétention de faire le tour de cette question. Mais moi, je porte une approche du management qui s'ancre dans 60 ans d'histoire. Donc c'est pour ça que quand vous avez rappelé le titre de notre ouvrage, il faudrait aller jusqu'au bout puisqu'il y a un sous-titre qui est donc les cinq règles vitales du management. De points, l'expérience de milliers de managers et dirigeants avec le Centre d'études des entreprises. Mmh. Le Centre d'études des entreprises était donc un club de dirigeants au début des années 60 qui a initié cette démarche avec une approche très simple, très pragmatique, de bon sens. Et en fait, par rapport à cette question de est-ce que vraiment le travail a changé, je dirais le travail en lui-même, non, mais c'est, je pense, plus la question de la dimension humaine, des relations humaines, de la relation, on va dire, au chef, au manager, au leader, au cadre, à l'encadrant, suivant comment on l'appelle.
Donc le travail n'a pas changé, mais c'est la manière de manager qui a peut-être changé, parce que les relations humaines ont évolué, la société a évolué, et on ne se parle plus de la même manière que dans les années 60.
Oui. Nous, on a une image qui illustre un peu notre approche. On dit il faut clarifier l'eau du bocal pour que les poissons soient meilleurs. Et je pense que le bocal, on va dire, si on prend que la France, dans les années 60, n'est pas le même bocal aujourd'hui. Donc, de fait, ça a une influence sur les relations entre les poissons, à savoir l'eau du bocal.
Sacha, comment vous réagissez à cette première question?
Eh bien, moi, je trouve qu'effectivement, ça a changé. Alors, en plus, effectivement, on accompagne des boîtes depuis pas mal de temps. Ça a changé déjà au début, quand on accompagnait des boîtes. Je trouve que ça change encore plus, voire ça se morcelle. Et je trouve que votre intervention, tout à l'heure, sur justement ce que pensent les jeunes, elle est hyper intéressante, parce qu'en fait, on a du mal à dire qu'est-ce que pensent les jeunes. En fait, ils pensent six trucs différents, si j'ai bien compris. Hein. Il y a six profils différents.
C'est ça. Et il y a six sociotypes. J'ai pas donné les pourcentages, mais il y a six sociotypes.
La société, elle est un peu comme ça. Je trouve que la société, elle s'hybride. Elle est devenue définitivement hybride. C'est-à-dire que là où les choses elles étaient assez claires avant, on disait il y avait la vie chez soi, il y avait la vie au travail. Ça se mélange quand même sacrément. Là où on se disait effectivement il y a la vie pro, la vie perso, tout ça se mélange. Enfin. Et même dans la société, on le voit très bien, la société, tout se mélange, quoi. C'est-à-dire que même je suis un homme, je suis une femme, ça c'est pas aussi clair que ça non plus, ça se mélange. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui se revendiquent de plusieurs choses différentes, et donc on est dans une espèce d'hybridation. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on l'accepte, c'est comme ça. Et on arrive à plein de choses différentes qui s'hybrident les unes avec les autres. Et le manager, alors du coup, effectivement, il faut s'adapter à cette réalité-là. Alors, de toute façon, il y a des mouvements effectivement de management qui, je trouve, évoluent plutôt dans le bon sens. Mais là, le coup qu'on a eu sur le télétravail redonne un coup d'accélérateur un peu à tout ça et rend le truc encore plus complexe. Le manager, franchement, c'est pas facile.
On le réévoquera le télétravail, mais restons sur le manager. Très souvent, on le dit, et je pense que c'est pas vous qui allez me démentir, que en fait, la problématique que l'on a avec le manager ou le management, c'est que trop souvent, on en fait une promotion, une fonction, alors que c'est avant tout une compétence. Alors, je repose la question en parodiant Simone de Beauvoir, est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on devient manager? Est-ce qu'on peut ne pas avoir de vocation à être manager et le devenir grâce aux différents ouvrages que vous écrivez tous les deux? François-Joseph.
Alors, très bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, je crois que mon année de philo au bac, même si j'ai dû avoir la moitié des cours en moins par absence de l'enseignant, on m'avait dit une des premières choses, c'est d'arriver à définir les mots qu'on emploie. Donc quand on parle de manager, est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on le devient? En fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre, on va dire, le manager, on va dire le chef, le responsable, et le côté meneur d'homme. Si effectivement le côté meneur d'homme, un peu le côté général Bijard, pour prendre un peu une image forte, ou un Napoléon, effectivement, on est comme ça. Voilà, il y a quelque chose de vraiment
qui est inné, personnel. C'est le cas de le dire.
Voilà. Mais par contre, nous, avec l'approche du management qu'on porte, avec cette image-là de clarifier l'eau du bocal pour que les poissons soient meilleurs, on dit que l'efficacité d'un manager tient à un tiers à lui. Et à deux tiers à son environnement, à savoir à l'eau du bocal.
Est-ce que ça veut dire que pour un RH, s'il manque le tiers qui tient à lui, il ne faut pas le nommer manager?
Ben en fait, après, c'est une image, bien sûr, cette histoire de deux tiers, un tiers. Une personne n'est pas... c'est schématique. Mais en fait, la question de fond, c'est à quoi sert un manager, un chef, un responsable, un encadrant? Et quand on pose cette question, là, vous pourriez vous poser la question, c'est la question qu'on pose dans nos interventions, on dit aux gens, pour partir de l'observation du réel, c'est donnez-nous le nombre de managers que vous avez depuis que vous travaillez, depuis l'âge de 20-25 ans. Donc, ils nous disent, par exemple, s'il y a 10 participants, il y a 10 anciens chefs, ils en ont 100. Parmi ces 100 chefs, il y en a combien qui ont été pour vous des bons chefs? Eh bien, le résultat qu'on a, c'est un bon chef sur trois. Donc déjà, je leur dis, on va pleurer ensemble, de dire on a un bon manager aujourd'hui, et on fait cet exercice depuis des années dans différents secteurs. Donc un bon chef sur trois, c'est à pleurer, avec tout ce qu'il y a comme livre de management, de formation de management, et ainsi de suite. Et quand on leur dit, maintenant, troisième question, qu'est-ce qui a fait que tel chef était bon pour vous? Eh bien, qu'est-ce qui ressort? C'est un gars qui m'a fait une personne qui m'a fait progresser. Et ça tombe bien parce que c'est l'étymologie du mot autorité, qui m'a augmenté, il m'a fait grandir, il m'a fait progresser. Donc, en fait, un manager, c'est celui, il doit être choisi sur le critère de est-ce qu'il a le goût et les compétences et l'envie de faire progresser les autres, de s'occuper des autres. Donc, bien évidemment, ça va pas être d'abord sa compétence technique qui va primer, mais c'est plutôt son appétence pour les relations humaines, pour les autres.
Sacha Lopez, vous avez donc édité un livre sur le télétravail, le management en situation hybride. On est confronté, le travail est confronté depuis une vingtaine d'années. Ça a commencé, je pense, avec l'arrivée des 35 heures et les RTT, où on a modifié un petit peu nos temps de travail, où on a retransformé aussi notre manière d'aborder les loisirs. Puis la Covid est arrivée avec l'arrivée en masse du télétravail, c'est-à-dire l'accélération du télétravail. Télétravail dans les entreprises. On parlait de ces sociotypes, on parle de ces jeunes qui sont des bifurqueurs. Les entreprises sont attachées à la question de la marque employeur. Ça doit extrêmement complexifier aujourd'hui la tâche du manager sur un travail qui s'est transformé au fil des ans, Sacha Lopez.
Ouais, c'est pas facile de s'y retrouver quand on est manager là-dedans. Ça change pas mal de choses. Ça change la façon de manager. Moi, je suis intimement persuadé, et je pense que là, on sera d'accord, c'est que le côté hybride, c'est-à-dire qu'en fait, on va intégrer du télétravail, on n'a pas les gens tout le temps à côté de soi, ça tord le coup, je pense, définitivement, au micromanagement. C'est-à-dire le petit micromanagement hérité de Taylor avec command and control, on découpe les tâches, on met un contremaître au-dessus, on vérifie que les gens ont bien fait. Oh ben ça, on ne peut plus parce que les gens ne les ont plus à côté. Donc, du coup, on ne peut plus vérifier. Donc, ça oblige à changer de type de management, ce qui, pour certains managers, peut être aussi difficile parce que ça remet en question leur modèle de management. Donc, il y a ce côté-là, il va falloir s'adapter à ça. Bon, mais au-delà de ça, au-delà de la posture aussi, il y a des choses très techniques et très particulières. Ça rajoute une couche de digital très forte, quand même, dans les organisations. Il va falloir arriver à gérer ça, ce qui n'est pas si évident. Ce qu'on je disais, enfin, on est vraiment dans une hybridation. On a le physique, le digital se mélange à tel point qu'aujourd'hui, on parle de figital. Il y a un mot qui explique le mélange des deux approches. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est compliqué à gérer pour un manager. Et donc, du coup, effectivement, il faut arriver à se repérer. Un des bons, de toute façon, un bon manager hybride, c'est un bon manager tout court. On est d'accord. Il y a ce côté-là où on peut, je pense, de toute façon, s'appuyer sur des bases saines quand on a les bonnes pratiques de management, notamment ce management par la confiance, management qui va faire grandir. Ça, ce truc-là, de toute façon, même avec le distanciel, on remarque que ça perdure. Maintenant, ça, c'est en tout cas, nous, un des trucs qu'on retrouve quand même dans beaucoup d'organisations et contre lequel on met en garde, c'est le risque de perte de lien social. C'est-à-dire que le télétravail, c'est hyper sympa sur le côté qualité de vie. Et je pense que la plupart des gens qui en bénéficient le plébiscitent. Pour autant, sur du long terme, on n'a pas trop conscience, je pense, des difficultés que ça peut créer sur le délitement du lien social qu'il peut avoir. Et le manager, il est garant de ça aussi, quoi.
Est-ce que vous pensez, Sacha Lopez, que le télétravail a du plomb dans l'aile? Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui reviennent sur cette question du télétravail, voulant, je disais dans l'édito, ramener les salariés au bercail. Pour vous, on est plutôt sur du quelque chose de long terme, ou est-ce que c'est une mode qui va se terminer, ou du moins qui va devenir minoritaire?
Ça va être compliqué de ramener les gens à plein temps, sachant qu'aujourd'hui, il y a même des salariés qui n'acceptent des postes que s'ils ont du télétravail. Donc je pense que ça va être compliqué de revenir complètement en arrière. Et ce que j'observe, moi, là-dedans, c'est étonnant, hein, mais c'est toujours comme ça. C'est un mouvement de balancier très fort. C'est-à-dire que pendant le Covid, et à la sortie du Covid, on nous a dit que... On a dit, il y aura plus, c'est has-been les bureaux, il y aura plus jamais de bureaux. Google a fermé tous ses locaux en disant tout le monde fera du télétravail à plein temps. Tous les grands de la Silicon Valley ont fait ça. Et voilà.
Maintenant, il y a des tours aujourd'hui, à la défense qui sont vides.
Ouais. Et aujourd'hui, on dit, on ramène tout le monde. Et Google aussi, d'ailleurs. Donc, c'est rigolo. On est dans un système de balancier. Comme toujours, je pense que la vérité se situe à mi-chemin entre les deux. Il y aura un peu de télétravail. Ça amène quand même une qualité de vie qui est hyper intéressante. Et puis, effectivement, en tout cas, moi, c'est des choses aussi que j'observe aujourd'hui. Il y a eu des études au tout début qui nous montraient que le télétravail, ça amenait de la productivité. Aujourd'hui, les mêmes études, elles nous disent que c'est plus si sûr que ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un juste milieu à garder entre les deux. Il y a le risque de perte de lien social. Bon, au-delà du fait qu'on est des animaux sociaux, qu'on a besoin de ça, c'est quand même aussi une façon d'être efficace en entreprise. Et il y a un autre truc derrière ce lien social aussi, je pense que c'est le côté créativité. Sur du long terme aussi, je ne pense pas qu'on puisse imaginer des solutions très décoiffantes via Teams.
François-Joseph, vous voulez réagir à ça, bien évidemment?
Oui, mon confrère parlait que le télétravail ne permettait plus le micromanagement. Moi, j'ai le cas d'une organisation de 3000 personnes que j'ai accompagnées en plein Covid, où on pensait que le DG, qui était déjà un peu dans le micromanagement avec le télétravail, allait un peu se relâcher. En fait, ça n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Il voulait tout contrôler, tout. Donc, en fait, voilà.
Qui a fini à épuiser le premier, le dirigeant le dirigeant ou les collaborateurs?
Le dirigeant est parti par la suite de son propre fait. Mais effectivement, celui qui a pris la suite était plus dans un bon management. Et l'autre chose, par rapport à la question du télétravail ou du lien social, donc ça, c'était une histoire d'il y a une dizaine d'années dans une usine agroalimentaire. Donc on n'est pas encore en problème de télétravail, où ils se sont aperçus à un moment que leurs indicateurs de performance se dégradaient. Donc ils ont envoyé un sociologue pour essayer de comprendre pourquoi ça se dégradait, alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien. Et ils se sont aperçus qu'en fait, pendant cette période de dégradation des indicateurs, eh bien tout simplement, il y avait eu des travaux autour de l'usine qui empêchaient l'accès aux restos habituels pour le personnel, et qu'en fait, ils ont réalisé que cet espace gratuit de rencontre, d'échange, un peu la grosse machine à café, si vous voulez, eh bien, avait empêché aux personnes qui coopèrent au quotidien sur le terrain de se passer les informations pertinentes. Voilà. Donc, en fait, comme l'a dit Sacha Lopez, voilà, il n'y a pas de 100% de télétravail ou 100% de
en fait, présentiel. La question, elle est sur deux points fondamentaux. C'est à la fois la liberté, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire dire à un collaborateur, je préfère au travail, je préfère être chez moi et pouvoir l'accepter. Et la deuxième élément, c'est la question de la confiance aussi, non?
Oui, mais alors, c'est quand tout à l'heure vous allez faire cette communication là, avec le modèle DISC, où on va parler d'introverti, d'extraverti, l'introverti, il préférera le télétravail, parce qu'il veut être dans sa bulle, alors que l'extraverti, il aura besoin de relations sociales, lui préférera aller au bureau. Donc en fait, la question, c'est plutôt quelles sont les questions que se pose le manager avec son équipe pour pouvoir répondre, avoir les bonnes réponses en fonction de leur contexte et de leur situation, de leur cœur de métier, et ainsi de suite.
Sacha, la question liberté, confiance, comment on décide finalement ce qui est le mieux?
Alors, y a un côté autodétermination qui est hyper important, ça c'est sûr. De toute façon, pour que les gens acceptent, il faut au moins une part d'autodétermination. Tu m'imposes, je m'oppose, tu m'impliques, je m'applique. Je pense que cette phrase n'aura jamais été aussi vraie que dans notre pays. Mais au-delà de ça, y a bien sûr, on ne va pas se mentir, le côté confiance et tout, mais si on met un peu en perspective aussi, parce que nous, on a aussi accompagné des entreprises qui étaient beaucoup dans ce management par la confiance, mais qui ont aussi galéré quand même avec cette nouvelle modalité de travail. Moi, je pense qu'il y a... Alors,
et c'est-à-dire que la confiance, elle l'avait quand elle voyait tout le monde, mais quand elle ne les voit plus, c'est plus compliqué peut-être?
Non, ce n'est pas tellement ça. C'est qu'après, il y avait la confiance, mais alors, je vais le dire comme ça. Il y a... pour que quelqu'un soit vraiment impliqué, donc vraiment il fasse son boulot et tout, il faut deux trucs. Il faut de la motivation, c'est plutôt des aspects personnels. Est-ce qu'on répond à ses besoins personnels? Alors, est-ce qu'il y a du sens et tout? Mais aussi, est-ce qu'il y a des bonnes conditions de travail? Bon, ça, franchement, l'aspect... Ça, c'est le moi. C'est qu'est-ce qui est pour moi? Donc, on a besoin de ça pour bien travailler, c'est normal. Donc là, avec le télétravail, franchement, le moi, il est plutôt bien servi. Après, il y a l'autre, c'est le nous. Le nous, c'est plutôt l'engagement. C'est est-ce que je vais mouiller la chemise pour mon collègue parce que justement, je le connais, je suis allé manger avec lui tous les midis et puis c'est quelqu'un que j'aime bien. Et donc voilà, le jour où il a un problème, moi, ouais, je vais y aller, je vais redoubler d'efforts, je vais essayer de l'aider, tout ça. Donc ça, c'est l'engagement, c'est le nous. Et là, honnêtement, le nous, il se rétrécit un peu quand même. C'est-à-dire que on est plus en train de se dire non, finalement, je vais pas voir les gens parce que c'est plus pratique pour moi, je reste chez moi. Et on nourrit pas beaucoup ce nous. Donc l'implication, elle est à la jonction des deux. Donc il faut les deux quand même.
C'est ça. Donc on est en risque d'arthrose du genou.
Oh là là.
Pour faire
je le garde.
Elle est offerte. Elle est généreusement offerte par la
tête. Ça fait plaisir, c'est gentil.
François,
c'est un beau. Oui, c'est un beau jeu de mollet pour Jean Bête.
On est en train de changer de typologie d'émission.
François-Joseph. De radio carrément, là.
Et de radio. On est sur Ré Chanson. François-Joseph, 5 règles vitales de management. On a envie de les savoir. C'est quoi ces 5 règles vitales, sachant que vous n'avez pas tout me les détailler et que pour ça, il faudra peut-être acheter l'ouvrage, tout simplement.
Oui, alors rapidement, c'est de dire, en fait, ces 5 règles vitales, ça s'oppose à ce qu'on observe, les 5 dérives toxiques qu'on observe depuis 60 ans dans tout type d'organisation, quelle que soit la taille, 10, 20, 100, 1000, 10 000 personnes, quel que soit le cœur de métier. Et donc, ces dérives toxiques, même si vous n'êtes pas en mesure de les citer, vous en avez une expérience concrète. Je vais vous les citer rapidement. La première, c'est la méfiance. Quand on parlait justement de confiance, eh bien, la méfiance, c'est des non-dits, des malentendus, des sous-entendus, des mauvaises relations. C'est « j'ose pas parler parce que si je parle, ça va me retomber dessus », ainsi de suite. Donc, méfiance. Deuxième dérive, le travail en silo. Ça, c'est un grand classique aussi. Troisième, c'est le désengagement. C'est en fait, on ne sait pas qui est responsable de quoi, qui peut décider quoi, est-ce que je peux faire, il faut que je lève le doigt pour demander l'autorisation de faire ceci, cela. 4, c'est des rivalités dans les équipes ou entre les équipes. Et puis 5, là c'est spécifique aux managers, aux chefs, aux encadrants. C'est des managers qui sont plus des gestionnaires d'activité avec la caricature du tableur Excel et des KPI, mais pas des managers qui s'occupent vraiment des personnes. Donc face à ces 5 dérives, on met en place tout simplement une règle vitale. Donc c'est la confiance, c'est fédérer les équipes autour d'un but commun qui est le client, c'est de clarifier les responsabilités et les pouvoirs, l'autonomie, c'est de développer l'esprit d'équipe et c'est de faire en sorte qu'on ait des managers qui managent, c'est-à-dire qui s'occupent vraiment des personnes.
Voilà. Et qui fasse progresser. Alors ça, Sacha Lopez, vous l'entendez. Je pense que ça, ce corpus commun, vous sciez. Mais comment on le met en œuvre en situation hybride? Parce que de fait, le parler vrai, qui est la première règle vitale, hein, que vous mentionnez, François Joseph. Quand on est à distance, quand on travaille par mail, moi je milite beaucoup pour le retour du point d'ironie dans la ponctuation française. Mais c'est difficile quand on travaille essentiellement par mail, de pouvoir faire passer des messages, l'ironie, la tristesse. Quand on parle, le non-verbal, elle l'exprime, l'écriture l'exprime moins.
L'ironie ne passe pas par mail, soyons très clairs.
Sauf si vous mettez un lol.
Alors, si on y ajoute effectivement des émoticônes, et ce n'est pas tellement utilisé dans le monde du travail, mais c'est vrai que ça pourrait être c'est une piste qui, je trouve, est intéressante. Ça permet de rajouter du non-verbal au digital. Mmh. L'ironie, ça ne passe pas. Il y a même une étude là-dessus où on envoyait des mails.
Mais c'est parce qu'on a supprimé le point d'ironie qui existait.
Mais c'est quoi le point d'ironie?
Le point d'ironie, c'est un point d'interrogation inversé qui a été utilisé à la fin du 19e, début du 20e siècle pour marquer justement l'ironie dans la littérature.
Et quelques comme auteurs, en espagnol
Un peu, si vous voulez, ouais.
Ah, ok.
Bravo, on en apprend tous les jours. Là, merci Patrick Longchamp.
On est passé chez Christophe Henning maintenant. On parle littérature dans l'écho des solutions.
Non, mais l'émoticône joue ce rôle-là. Effectivement, en fait, bon, déjà, il faut être très conscient que, notamment sur l'émotionnel, le juste ce qu'on dit, donc ce qui est écrit, transmet très peu d'informations. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, je vais bien, voilà, si je vous dis, je vais bien. Bon, vous avez compris que je vous ai passé exactement l'inverse du message. Pourtant, si je l'avais passé par mail, vous n'auriez pas détecté que le deuxième était pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, il y a plein de messages qui ne passent pas. Donc, il y a une culture à se donner là-dessus qui est intéressante. Il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle « Le digital non-verbal ». Mmh. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à passer du non-verbal aussi par le côté digital? Et là, il y a toute une acculturation à faire là-dessus. Mmh.
Alors, l'hybridité est devenue une réalité. Comment on arrive à manager à distance des équipes pour pouvoir ne serait-ce que déjà animer une réunion de manière efficace? Parce qu'on sait bien que quand on est derrière son ordinateur, déjà on n'allume pas forcément la caméra, on peut répondre à ses mails en ayant une oreille discrète et peu attentive à ce qui se dit dans la réunion. Donc déjà, manager une équipe à distance, comment on fait, ne serait-ce que pour animer une réunion qui soit efficace, Sacha Lopez?
Alors déjà, on peut aller s'inspirer de pas mal d'un corpus de méthodologies qui existent, notamment autour de l'agilité. L'agilité, souvent on retrouve ça dans le monde de l'informatique, mais l'agilité, c'est quand même... L'objectif de l'agilité, c'est de rendre les équipes plus autonomes. Et donc, du coup, dans le côté hybride, c'est hyper intéressant d'avoir ce corpus d'outils-là, parce que ça va nous être très utile. Et puis, quand on anime une réunion à distance, notamment quand on a les gens qui n'allument pas leur caméra, alors, il y a plein de façons de faire. J'ai envie de vous donner un petit jeu, tiens, si vous êtes manager, à faire avec votre équipe, des gens qui n'allument pas leur caméra. Alors déjà, il faut les prévenir avant, quand même. Ça, c'est important. Moi, j'ai eu des retours de gens qui me disaient les gens, ils n'allument pas leur caméra parce qu'ils ne sont pas visibles. Ou alors, ils ne sont pas prêts à être vus. Donc, il faut les prévenir avant. Sinon, on les met dans une situation
caméra obligatoire.
Qui ne marche pas. En tout cas, leur dire, voilà, on va faire une réunion et j'aimerais bien que vous ayez allumé la caméra parce que ça peut faire passer beaucoup de messages aussi. Il y a plein d'informations qui passent par du non-verbal. Et il y a un petit jeu qui peut être très sympa. C'est le « J'ai déjà ». On demande à tout le monde d'éteindre sa caméra et vous listez les 10 choses à faire avant de mourir. Et à chaque fois que les gens ont déjà fait ce truc-là, ils allument leur caméra et ils expliquent. Donc, par exemple, j'ai déjà vu une aurore boréale, j'ai déjà vu un volcan en éruption, j'ai dormi à la belle étoile, j'ai déjà voyagé sur une île, j'ai déjà machin...
Et ça permet un petit peu de... François-Joseph, ce livre finalement que vous avez écrit, Les 5 règles vitales de management, s'applique aussi sur sur l'hybridité. Comment est-ce qu'on peut arriver? Ou est-ce que finalement, Sacha exprime, j'ai envie de dire, la forme et votre ouvrage le fond? Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de complémentarité entre les deux ouvrages?
Alors, on va dire, l'aspect du télétravail n'est qu'un aspect du management. Comme je l'ai dit, le livre partage un modèle de management qui s'ancre dans 60 ans d'histoire. Mmh. Et qu'en fait, comme je vous l'ai cité rapidement, là, les 5 dérives toxiques et donc les 5 règles vitales qu'on met en place, ce qu'on propose, c'est, par rapport à ces règles, c'est certains outils qui peuvent aider à améliorer le fonctionnement et des questions qui poser au manager ou au dirigeant et avec son équipe, il va y répondre. Mmh. J'animais un séminaire de comité de direction là en décembre et un mois après, quand j'ai fait le bilan à froid avec le dirigeant, il m'a dit « Vous nous avez aidé à nous poser les questions qu'on ne voulait pas se poser et vous nous avez aidé à nous poser des questions qu'on ne savait même pas qu'il fallait qu'on se pose. » Voilà. Donc en fait, c'est dire, nous, on ne dit pas qu'on a la réponse à tout, puisqu'on intervient dans des associations, entreprises du CAC 40, collectivités territoriales, des structures de 50 personnes, comme de plusieurs
milliers. Parce que quel que soit le statut de l'entreprise, de toute manière, le management, les fondamentaux du management restent les mêmes.
En fait, l'homme, il est fabriqué pareil. Et j'aimerais dire, cette approche, elle a été pratiquée dans au moins 4 continents sur 5. Depuis une soixantaine d'années. Donc, on est vraiment sur des fondements humains. Quand Sacha Lopez évoquait le fait de dire il y a aussi le moi, les besoins personnels, ainsi de suite, voilà, ça répond vraiment, ce côté clarifier l'eau du bocal pour que les poissons soient meilleurs, ça répond vraiment aux besoins fondamentaux humains. Et pas que la pyramide de Maslow. Parce que la pyramide de Maslow, elle est largement dépassée par d'autres modèles des besoins de l'être humain.
Alors, management, travail hybride, et l'IA dans tout ça, Sacha Lopez, ça arrive dans le management? Allons-y, hein, télétravail, maintenant il reste l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va finir par faire des réunions grâce à l'intelligence artificielle sans qu'aucun participant ne participe à la réunion? Je crois que c'est ce qu'essaye de faire Copilot, Microsoft avec Copilot, qui vous permettra d'assister à deux réunions en même temps.
Alors, bon, moi je suis pas expert de l'IA, mais je suis un geek, donc je suis à fond sur ChatGPT depuis des mois.
Moi aussi.
Je trouve ça assez fascinant, et à la fois, je pense que ça nourrit beaucoup de fantasmes. Alors en tout cas aujourd'hui, je dis pas qu'un jour ça arrivera pas, mais ça nourrit beaucoup de fantasmes, et aujourd'hui c'est quand même qu'un outil, un super outil, mais ça ne remplace pas. Et par exemple, un outil qui permet de faire les comptes rendus de réunion tout seul. Et ça, quand même, c'est pas mal. Pour ça, c'est pas mal.
Mais je crois que c'est en effet ce que va faire Microsoft avec Copilot, qui va permettre d'assister à deux réunions et vous permettre d'avoir un compte-rendu de la réunion pendant que vous assistez à une autre, et éventuellement de pouvoir répondre ensuite à cette réunion. Finalement, le management, vous le dites, François-Joseph, hein, depuis 60 ans, finalement, on utilise la même méthode. Finalement, le management, c'est d'abord des hommes. Finalement, ça bouge pas beaucoup. C'est la manière, c'est le cadre, c'est le paquet cadeau qui se transforme au fil des ans.
Alors en fait, moi, ce qui m'interpelle,
ce qui m'interroge,
en fait, c'est on sait, quand on s'interroge au management, il y a eu plein de théories, plein de modes et ainsi de suite. Et en fait, nous, pour en revenir à la démarche que je porte, en fait, on est assez nous, ce qui nous intéresse, c'est dans la vraie vie, avec des vraies personnes, quand ça marche pourquoi, quand ça marche pas pourquoi, de revenir au bon sens paysan.
Allez, deux ouvrages, 5 règles vitales de management, l'expérience de milliers de managers et de dirigeants avec le Centre des études des entreprises. J'ai tout dit. C'est pas un titre, ça. C'est pas un titre. Et puis, guide de survie en management hybride aux éditions Erol. Ça, c'est un titre de Sacha Lopez.
Alors, excuse-moi, mais c'est chez Pearson. J'ai peur que mon éditeur entende et après me gronde. Alors, du coup,
chez
Pearson.
C'est Pearson.
C'est bien aussi, hein.
C'est bien Erol, mais c'est chez Pearson. Merci en tout cas à tous les deux. On retrouve tout de suite Vincent Lemaire. Je suis allé le rencontrer à l'issue de son spectacle La Comme en couleur, qui est joué tous les mercredis au Théâtre de la Gaîté à Paris et qui va tourner en France. Donc je vous invite à y aller si vous le souhaitez. On retrouve Vincent Lemaire pour parler justement de cette méthode disque, cette manière de communiquer quand on fonctionne pas du tout pareil.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Que l'on soit en couple, entre amis, entre collègues, en famille, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et même avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas toujours facile de se comprendre. Et c'est justement pour ouvrir de nouveaux horizons qu'on a eu envie, avec mon compère Gary Vercruis, de créer la Comme en couleur. Et ceci, nous l'avons fait en toute simplicité. Et j'ai envie de vous souhaiter, déjà d'avoir une communication la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Et j'ai envie aussi de vous souhaiter de faire de vos différences des complémentarités.
Voilà, après ces applaudissements, on est avec Vincent Lemaire. On vient d'assister, en tout cas je viens d'assister à ce spectacle qui s'appelle Comme en couleur, qui va tourner un petit peu dans toute la France. Bonjour Vincent.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous accueillez dans votre loge après le spectacle, donc c'est déjà très très gentil à vous, parce qu'il y a toujours le moment de la décompression après le temps du spectacle. Vincent Lemaire, dites-nous un petit peu Ce qu'est cette méthode 10, qu'on a parlé pendant toute l'émission de management sur, en situation hybride, de management avec des règles vitales. Mais si on n'a pas les bonnes communications entre les personnes, c'est compliqué. Et vous, dans ce spectacle qui a commencé à tourner d'abord dans le monde de l'entreprise, qui aujourd'hui est offert au grand public, vous nous parlez de 5 couleurs. C'est quoi ces 5 couleurs? C'est quoi cette méthode que vous expliquez, que vous explicitez avec beaucoup d'humour durant près d'une heure et demie?
Alors cette histoire de méthode disque effectivement, ou méthode des couleurs, hein, il y a différents noms, explique qu'on fonctionne tous différemment, on communique tous différemment, et que ça vaut le coup non seulement d'avoir conscience de comment soit on fonctionne et comment l'autre fonctionne pour pouvoir s'adapter. Et il y a en fait 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu.
Ouais. Alors 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Bon, tout ça, évidemment, ce sont des méthodes. Il en existe plein d'autres. Hein. Il y a des férus d'énéagrammes. Il y en a d'autres qui ne jurent que par les process com. Bon, bref, il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est peut-être la plus simple parce que 4 couleurs. Et on voit bien dans le spectacle que parfois, c'est un peu difficile de se retrouver dans les couleurs. Comment est-ce qu'un chef d'entreprise, un manager, peut arriver assez simplement à cerner les personnalités des personnes avec qui il travaille?
Effectivement, on n'est évidemment jamais qu'une seule couleur. On est souvent un nuancé de plusieurs couleurs. Mais souvent, il y en a quand même une ou deux qui prédominent. Mmh. Et en fait, en écoutant les gens, en voyant la façon dont ils se comportent, en observant ce qu'on appelle aussi le non-verbal, on peut réussir à détecter telle ou telle couleur. Donc un manager, concrètement, il a tout intérêt à observer énormément les membres de son équipe et à l'occasion de chercher à s'adapter, parce que tous les membres de son équipe ne fonctionnent pas comme lui. Mmh. Et donc, de temps en temps, ça
demande peut-être aller un petit peu plus loin, parce que ce que vous nous présentez là est très caricatural, mais travailler en équipe, savoir comment l'autre fonctionne pour pouvoir s'adapter à lui-même, ça demande aussi, je sais pas, moi je suis peut-être vert, vous travaillez avec un bleu, on invite bien évidemment les auditeurs à se rendre au spectacle pour comprendre de quoi on parle quand on parle de vert et bleu, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi de la flexibilité, de la compréhension, de l'acceptation de mourir quelque part dans sa couleur pour accepter la couleur de l'autre.
Très, très clairement, à partir du moment où on se rend compte que effectivement l'autre en face de nous ne fonctionne pas comme nous, ne communique pas comme nous, le challenge pour beaucoup de managers, c'est de réussir à aller mettre leur énergie dans d'autres styles de couleurs pour pouvoir mettre un peu, ça harmonise un peu les choses, hein, et ça fluidifie la relation. Donc clairement, les gens ont à y gagner, en général, à faire un pas vers l'autre, moi j'appelle ça.
À faire un pas vers l'autre. Alors comment, enfin question basique, comment vous êtes tombé dans ces couleurs
Ah, alors moi à l'origine, je suis kinésithérapeute.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Ah non, alors quoique. Parce que effectivement, quand les gens sont allongés sur la table, ils vous parlent alors avec leur corps.
C'est ça.
Et eux, ce ne sont pas des mots MOTS, mais des mots MAUX hein, qu'ils utilisent pour exprimer les choses.
Mettre des mots sur les mots.
Exactement. Et très très souvent, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait du lien justement entre les mots MAUX et peut-être ce qu'ils n'ont pas dit ou ce qu'ils n'ont pas exprimé. Donc je me suis très vite intéressé à la communication, à comment on dit les choses, et aussi au fait que les gens, j'ai remarqué, quand ils ne se connaissaient pas assez, quand ils n'avaient pas une certaine conscience d'eux-mêmes, et qu'ils ne s'écoutaient pas, et bien justement le corps va aller commencer à parler pour eux. Et donc petit à petit, je me suis intéressé à différents outils, ce qu'on appelle le développement personnel, de la communication. J'ai gratté, j'ai fait un peu de PNL, de l'analyse transactionnelle, la communication non violente, voilà, certainement vous les connaissez. Et puis,
les auditeurs, peut-être pas totalement, c'est pas grave. Il y a énormément d'outils de développement personnel permettent soit d'aller mieux, soit de mieux communiquer avec l'autre.
Soit de mieux se connaître. Et en fait, est arrivé dans ma vie par l'intermédiaire de mon futur ami et associé, hein, Gary Vercruz, il me parle de cet outil. Et je dis, c'est quand même bien fait, c'est assez simple, comme vous l'avez dit, c'est simple d'accès. Et j'ai commencé à gratter, je me suis formé aussi à l'outil. Et de là, on s'est dit, mais toi, parce que je m'étais mis à la scène, j'avais arrêté la kiné, hein, je faisais pas rire uniquement mes patients, même si je le faisais, parce que des fois j'allais en balnéothérapie avec mes petites mamies, et puis je mettais mon maillot de bain, et puis je déconnais un peu, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire dans l'humour. Mais bref, j'ai arrêté la kiné, j'ai commencé à faire rire un peu les gens, et je me suis dit, mais moi j'aimerais en plus de faire rire les gens, transmettre, expliquer des choses. Et si j'expliquais, notamment sur cet outil, tout en les faisant rire, parce qu'après tout, l'humour, c'est un beau moyen de faire en sorte que les gens ouvrent un peu leur esprit et mémorisent les choses. Donc voilà, c'est comme ça que c'est.
Puis évidemment, ça donne une ambiance dans la salle, parce qu'évidemment, chacun se reconnaît. Là, on sort de ce spectacle où il y avait des groupes. Alors là, vraiment, je ne sais pas si vous avez toujours autant de groupes qui viennent ensemble pour voir ce spectacle. Mais vous ne les laissez pas sans rien, parce que repartir sans rien, sinon juste avec ça en mémoire, c'est peut-être un peu léger. Il faut aussi qu'il y ait un après à cette transmission.
Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est quelque chose. Moi, c'est j'ai envie de sensibiliser les gens. J'ai envie effectivement de mettre des graines. Mmh. Maintenant, si derrière ils ne vont pas plus loin, s'ils grattent pas et s'ils utilisent pas, c'est dommage. Mmh. Et déjà avec ce qu'ils ont vu dans le spectacle, parce que évidemment ils se sont marrés, mais il y a plein effectivement de tips, de trucs et astuces à utiliser dès demain, le lendemain et dans les jours à venir avec les collègues, avec les amis. Voilà, les gens petit à petit ils disent ah mais j'ai testé ça, ça marche. Et alors pour répondre à la question sur les groupes, c'est variable, c'est-à-dire que des fois effectivement je vais avoir des groupes d'amis, des fois des collègues, et puis alors après je vais avoir des familles, parce que maintenant de plus en plus c'est des gens qui viennent avec des enfants. Ouais, à partir de 10 ans ils comprennent, c'est l'intérêt aussi de la méthode, à partir de 10 ans ils comprennent. Et puis alors des couples aussi, parce que il y en a qui en profitent pour faire passer un message à monsieur ou à madame discrètement en disant bien chérie je t'amène au spectacle parce que voilà. Donc voilà, les gens à chaque fois ils en tirent quelque chose, et on a remarqué justement grâce à l'humour que ça restait, et que des fois on recroise des personnes et dit, ah on vous a vu, je me rappelle il y a un an et demi, voilà. Bon, voilà, donc
c'est ça. Alors justement, vous avez travaillé en entreprise, parce que le spectacle tel qu'il est là, il a beaucoup tourné, je le disais au début, dans le milieu de l'entreprise.
Il y a deux versions en fait.
Des réseaux d'entrepreneurs, et après on accompagne les entreprises sur de la formation peut-être plus intégrale, plus profonde. Bien évidemment là on a juste l'introduction, et finalement les autres chapitres restent à découvrir. Quels sont les bons leviers à utiliser pour pouvoir creuser et aller au plus loin sans enfermer ? Parce que la problématique de cette méthodologie, c'est peut-être l'enfermement parfois dans une couleur ou dans une autre, ou dans un panachage de couleurs.
Alors effectivement, je reprécise juste, effectivement, il y a une version conférence qui se joue encore dans les entreprises, conférence humoristique, que je personnalise selon les entreprises, on joue ça dans les réunions, les conventions, et donc ce que vous avez vu ce soir, c'est la version spectacle pour le grand public. Voilà. J'explique quand même tout au long du spectacle que, évidemment, on va pas mettre les gens dans des cases, c'est pas ça le but, et surtout, comme vous l'avez dit, c'est une sensibilisation, je me veux pas être une formation, mais l'idée c'est d'ouvrir les chakras, et après les gens cherchent à aller plus loin, donc... Pour aller plus loin, c'est quoi ? C'est déjà peut-être passer exactement le profil, c'est-à-dire on répond à tout un questionnaire, on a exactement ces pourcentages de couleurs. Et puis après, comme vous dites, avec certaines formations, on peut commencer à apprendre à s'adapter, à apprendre à reconnaître les couleurs des autres. Bon, bref, tout ça pour dire qu'après, il y a des exercices à mettre en place. Et effectivement, là, je laisse la place à d'autres personnes, à des formateurs pour mettre ça en place.
Vous avez des retours, justement, sur d'entreprises qui vous disent que ça a complètement transformé. Un exemple, vous en avez un qui vient en tête ?
En fait, on se rend compte que déjà, le premier truc que ça met en place, ça met en place de la tolérance. À la différence. Avant, on disait « Ah, oh, Gérard, il est pénible. » Maintenant, on dit « Ah, peut-être que Gérard, il a beaucoup de cette couleur-là. Peut-être que si, des fois, il en enlève un peu et que moi, je vais un peu plus dans la... » En gros, on a remarqué que le retour qu'on a d'entreprise, c'est ça a mis une certaine fluidité dans les relations, et ça a réouvert la communication. Et les entreprises qui, après, vont même plus loin en mettant de la formation en place, ils nous ont expliqué que ça mettait plus d'humain dans la communication, et plus d'efficacité, parce que des loupés de communication, on en aura toujours. Ça. Maintenant, je pense qu'on peut vraiment les limiter, ou en tout cas, on peut faire en sorte que ce soit un peu plus juste dans la communication avec ce genre d'outils. Quoi.
Vincent Lemaire, on vous retrouve où prochainement ? Vous faites la tournée, là on est au Théâtre de la Gaîté à Paris, mais vous allez tourner en France, vous allez même faire des zéniths, ça remplit autant que ça comme en couleur.
Donc effectivement, à la Gaîté Montparnasse tous les mercredis, et puis on est en train de tourner dans les grandes villes de France, donc ça va être Strasbourg, ça va être Rennes, ça va être Nantes, Marseille, Lyon, Toulouse, bon bref, les grandes villes. Et puis effectivement, comme nous on est du Nord, on s'est dit on va se faire un beau challenge, on avait envie de se faire un gros kiff. Donc effectivement, Zénith de Lille en fin d'année, et qui sait si ça marche bien la prochaine tournée Zénith l'année prochaine.
La prochaine tournée Zénith, pourquoi pas aux Zénith de Nantes. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de succès, et je crois même vous avoir vu la première fois à Nantes. Merci beaucoup Vincent Lemaire d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Nous on se retrouve la semaine prochaine, il est temps de se quitter. On se retrouve sur rcf.fr et sur les plateformes de podcast dédiées. Comme vous le savez, je le redis, dès 17h tous les vendredis soirs, vous nous retrouvez sur rcf.fr, et puis à 14h bien évidemment partout en France. Merci beaucoup Vincent, à très bientôt. Au revoir.
Merci Patrick. Au revoir.